Le rêve est une seconde vie. Je n'ai pu percer sans frémir ces portes d'ivoire ou de corne qui nous séparent du monde invisible. Les premiers instants du sommeil sont l'image de la mort. Un engourdissement nébuleux saisit notre pensée et nous ne pouvons déterminer l'instant précis où le moi, sous une autre forme, continue l'œuvre de l'existence. C'est un souterrain vague qui s'éclaire peu à peu et où se dégagent de l'ombre et de la nuit les pâles figures gravement immobiles qui habitent le séjour des limbes. Puis le tableau se forme, une clarté nouvelle illumine et fait jouer cette apparition bizarre. Le monde des esprits s'ouvre pour nous. Swedenborg appelait ses visions mémorabilia. Il les devait à la rêverie plus souvent qu'au sommeil. L'Andor d'Apulée, la divine comédie de Dante, sont les modèles poétiques de ses études de l'âme humaine. Je vais essayer, à leur exemple, de transcrire les impressions d'une longue maladie qui s'est passée tout entière dans les mystères de mon esprit. Et je ne sais pourquoi je me sers de ce terme « maladie », car jamais, quant à ce qui est de moi-même, je ne me suis senti mieux portant. Parfois, je croyais ma force et mon activité doublée. Il me semblait tout savoir, tout comprendre. L'imagination m'apportait des délices infinis. En recouvrant ce que les hommes appellent la raison, faudra-t-il regretter de les avoir perdus? Cette Vita Nova a eu pour moi deux phases. Voici les notes qui se rapportent à la première. Une dame que j'avais aimée longtemps et que j'appellerai du nom d'Aurélia était perdue pour moi. Peu importe les circonstances de cet événement qui devait avoir une si grande influence sur ma vie, chacun peut chercher dans ses souvenirs l'émotion la plus navrante, le coup le plus terrible frappé sur l'âme par le destin. Il faut alors se résoudre à mourir ou à vivre. Je dirai plus tard pourquoi je n'ai pas choisi la mort. Condamné par celle que j'aimais, coupable d'une faute de je n'espérais plus le pardon, il ne me restait qu'à me jeter dans les enivrements vulgaires. J'affectais la joie et l'insouciance. Je courus le monde follement épris de la variété et du caprice. J'aimais surtout les costumes et les mœurs bizarres des populations lointaines. Il me semblait que je déplaçais ainsi les conditions du bien et du mal. Les termes, pour ainsi dire, de ce qui, en sentiment, peut nous autres Français. Quelle folie, me disais-je, d'aimer ainsi d'un amour platonique une femme qui ne vous aime plus. Ceci est la faute de mes lectures. J'ai pris au sérieux les inventions des poètes et je me suis fait une Laure ou une Béatrix d'une personne ordinaire de notre siècle. Passons à d'autres intrigues et celle-là sera vite oubliée. L'étourdissement d'un joyeux carnaval dans une ville d'Italie chassa toutes mes idées mélancoliques. J'étais si heureux du soulagement que j'éprouvais que je faisais part de ma joie à tous mes amis, et dans mes lettres je leur donnais, pour l'état constant de mon esprit, ce qui n'était que surexcitation fiévreuse. Un jour, arriva dans la ville une femme d'une grande renommée qui me prit en amitié et qui, habituée à plaisir et à éblouir, m'entraîna sans peine dans le cercle de ses admirateurs. Après une soirée où elle avait été à la fois naturelle et pleine d'un charme dont tous éprouvaient la teinte, je me sentis épris d'elle, à ce point que je ne voulus pas tarder un instant à lui écrire. J'étais si heureux de sentir mon cœur capable d'un amour nouveau. J'empruntais dans cet enthousiasme factice les formes mêmes qui, si peu de temps auparavant, m'avaient servi pour peindre un amour véritable et longtemps éprouvé. La lettre partie, j'aurais voulu la retenir et j'allais rêver dans la solitude à ce qui me semblait une profanation de mes souvenirs. Le soir rendit à mon nouvel amour tout le prestige de la veille. La dame se montra sensible à ce que je lui avais écrit, tout en manifestant quelque étonnement de ma ferveur soudaine. J'avais franchi en un jour plusieurs degrés des sentiments que l'on peut concevoir pour une femme avec apparence de sincérité. Elle m'avoua que je l'étonnais, tout en la rendant fière. J'essayais de la convaincre, mais quoi que je voulusse lui dire, je ne pus ensuite retrouver dans nos entretiens le diapason de mon style, de sorte que je fus réduit à lui avouer avec larmes que je m'étais trompé moi-même en l'abusant. Mes confidences attendries eurent pourtant quelque charme et une amitié plus forte dans sa douceur succéda à de vaines protestations de tendresse.